savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
On l'a-tu assez dit qu'il fallait pas regarder l'éclipse?
Ben là, ouais, on a dit pas mal.
Oui.
Semble-t-il qu'il y a des accidents, là, des gens qui avaient pas, ils pensaient avoir des bonnes lunettes, ils les avaient pas. Et l'accident que je savais pas, qu'un professeur d'un universitaire, un professeur d'optométrie m'a expliqué, c'est qu'il y a des gens qui avaient des bonnes lunettes et qui ont, pensant bien faire, pris les bonnes lunettes et ont mis des jumelles. Et la force du soleil à travers, parce que là, ça a fait comme une loupe. Tu sais, quand on était enfant, on allumait un feu avec une loupe. Là.
Oui.
Mais en quelques secondes, en 2 à 5 secondes, leurs lunettes ont brûlé carrément. Là, la lunette a brûlé.
Oui. Puis ça fait
et
partie.
Là, il y avait comme plus de lunettes.
Et ça fait partie donc de ces blessures qui sont répertoriées là, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Parce que là, on fait de l'humour, mais c'est vrai, il y a au moins. Là, puis je dis au moins parce que c'était sur une base volontaire qu'on donnait ces témoignages-là, mais au moins 28 cas là, de lésions oculaires qui ont été enregistrés au Québec.
Dans l'histoire récente là, ici de nos réseaux de santé au Québec, au Canada, on dit que c'est la première fois que tous les optométristes, tous les systèmes de santé se sont donné le mot pour faire un bilan complet. Donc toute personne qui arrive avec une conséquence, on le rapporte pour faire une évaluation complète, un portrait complet des conséquences.
Oui, pour être capable d'évaluer quand même les impacts d'un événement qui ne survient pas souvent, hein, disons-le comme ça, une éclipse solaire totale, la prochaine, ben, c'est dans des décennies, donc on n'est pas prêt d'en revoir une. C'est ce qui a permis au ministère de la Santé et Services sociaux d'accumuler des données comme celle-là. Et là, on n'a pas, par contre, les précisions sur où ça se passait, est-ce qu'on est en zone totale, est-ce qu'on est en zone d'éclipse partielle. Bien, il y a évidemment, ces accidents, mais ça doit pas tout être des accidents, Mario. On s'entend.
Non, c'est sûr que sur le nombre, sur 28, il y en a quelques-uns que c'est juste comme d'eau.
Oui.
Ils ont regardé l'éclipse.
Mais je me souviens qu'on l'a regardé ici sur la rue, Mario, mais juste
oui,
en avant
sais,
de
toi,
notre...
Toi, je n'ai parlé tout à l'heure. Il y a quelqu'un que tu as averti, monsieur, arrêtez de faire ça. Il mettait ses bras, il essayait...
ses mains en visière pour essayer de regarder l'éclipse. Monsieur, monsieur, c'est parce qu'on l'a dit 2000 fois. Faites pas ça.
Mais ceci dit, la grande majorité des cas, aux États-Unis, là, les 28, on n'a pas le détail au Québec, mais c'est réversible. Donc les gens, ils ont eu des désagréments, ils ont vu des points noirs pendant une couple de jours, mais ça revient. Exemple, si la rétine n'est pas complètement brûlée, elle est abîmée, mais elle se répare comme notre peau, elle se répare d'elle-même. Bon, la cornée, ça semble un peu plus compliqué. Le professeur m'expliquait que la cornée, la façon dont il faut voir ça, c'est carrément comme un œuf. Quand tu casses un œuf, le blanc d'œuf est parfaitement transparent. C'est le genre de gélatine qu'on a entre l'iris et la vitre de l'œil, de la cornée.
Bon, qui est comme la surface,
c'est
pas
ça,
la prétra de la surface.
Et ça cuit. De la même façon que ton blanc d'œuf, là, avec la chaleur, à un moment donné, il passe de transparent. C'est un peu dégueu.
Ouais.
Il passe de transparent à opaque. Tu vois, tout à coup, tu vois plus
brouille,
à travers,
là,
ça se brouille, puis ça devient blanc. Mais ton œil, il vient pas être blanc cuit comme une omelette, là, mais il cuit un petit peu, là. Fait que là, toi, tu vois, c'est comme en brouille. Comme si tu regardais à travers du blanc d'œuf, mais qui a cuit un peu, là.
Et que c'était une très mauvaise nouvelle de regarder ça avec des jumelles.
Ben, ça, semble-t-il que ça se corrige dans le sens, c'est une greffe de cornée.
Quand même un désagrément.
Okay,
nous devons passer à la greffe de cornée.
Ça me faire jouer dans les yeux.
Bon, ben la bonne nouvelle, c'est que ça reste 28 cas. Hein, certains pourraient dire seulement hein, dans une province, une région qui était quand même assez grande, surtout excessivement populeuse. Hein, l'éclipse totale est passée
sur
l'île de Montréal.
Millions, là, sur des millions, mais quand même.
Bon, alors la leçon. Pour la prochaine éclipse, si vous êtes toujours vivant, pas de jumelles, mettez vos lunettes, s'il vous plaît.
Ouais. Puis
Actualité.
Les gens qui nous ont écrit pour dire « Hey là, on commence à être écœuré, vous répétez toujours la même chose, vous pas regarder l'éclipse. » On n'a peut-être pas encore répété assez souvent.
Non.
Je le sais que pour quelqu'un qui l'a compris la première fois, on a l'air dans les médias des fois des capotés de répéter les mêmes choses.
Mais c'est souvent pour des bonnes raisons.
Ouais. Mais, tu sais, mettons, les gens seraient surpris dans le dernier 48 heures là, de l'éclipse. La quantité de messages que j'ai reçus, puis des gens vraiment de bonne foi qui me posaient, moi j'aurais une question, M. Dumont, il me l'envoyait à moi, là, une question. Puis tu dis, ben ça n'a pas de bon sens, là, on l'a dit.
Oui, puis en plus, t'étais comme le fan numéro un, en plus d'Éclipse Québec,
oui,
hein,
oui,
le site avec toutes
l'a dit,
les informations.
C'est vrai. On a dit les informations, puis on a donné le site Éclipse Québec où tu pouvais aller toi-même lire, c'est simple, vulgarisé, tout bien écrit.
C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des gens
on
qui
ont fait de la pédagogie.
Et c'est les... M. Dumont qu'on va texter, oui, il va nous ça. Le dire. Lui, il va nous quoi le faire dire. L'éclipse.
Mais les enseignants nous disent toujours, la pédagogie, c'est l'art de répéter. Voilà.
Oui, et de répéter beaucoup dans ce cas-ci, même si des fois, ben, c'est pas suffisant. Mario, une autre nouvelle complètement folle qui tombe dans l'actualité aujourd'hui, qui nous est racontée ben, de la bouche d'une femme, d'une dame, Myriam Jarjour, qui malheureusement a perdu son père lors de vacances à Cuba. Puis perdu, on se comprend, il est décédé malheureusement d'une crise cardiaque, s'en va dans l'eau, deuxième jour de vacances en famille, un malaise, puis malheureusement, pas de sauveteur sur place, personne en mesure de venir essayer de lui sauver la vie, ce qui fait en sorte que quand
mais
on ramène...
Il y a quand même eu des... Elle dit qu'elle l'a sortie de l'eau, d'autres l'ont aidée, maintenant se rendant compte, la criait. Ils ont tenté des manœuvres de réanimation. Est-ce qu'il aurait peut-être pu être sauvé s'il y avait eu rapidement des services d'urgence, mais en tout cas, on a tenté, je comprends, massage cardiaque sur le bord de la plage, il n'y avait plus rien à faire.
Oui, et c'est ce qui fait que malheureusement...
Mais c'est la suite, là, qui... Ben, la suite. C'est déjà un énorme événement, mais là, bon, ça arrive quelques fois par année, là, des gens qui décèdent à l'étranger en voyage. Il faut rapatrier la dépouille.
Oui, puis ce problème-là, c'est déjà posé, entre autres, sur des gros navires de croisière, hein, des gros paquebots, Mario, surtout quand tu es dans le sud. C'est parce qu'il faut que tu t'occupes du corps. Là. C'est pas quelque chose que tu peux laisser comme ça, au soleil, sans surveillance, sans supervision. Mais malheureusement, c'est ce qui semble avoir été fait avec le corps de M. Farah Alaa Jarjour, là, qui est décédé, donc lui, à l'âge de 68 ans. On l'a laissé, semble-t-il, sur une chaise longue, sa dépouille, 8 heures de temps. 8 heures de temps au gros soleil.
Au soleil, sa plage. C'est une chaise longue.
La famille est là, épleurée. Tout le monde panique parce que le père de famille vient de décéder. Ouais, on s'en vient chercher ça dans 8 heures. 8 heures plus tard.
Mais au début, ils attendaient une ambulance. Pendant un temps, ils attendaient. Ce que la fille m'a raconté, c'est qu'ils attendaient une ambulance. Mais finalement, en fin de soirée, c'est un véhicule ordinaire. Je crois qu'on parle d'une espèce de camionnette, genre un pick-up, là.
Oui. C'est là-dedans qu'on aurait
embarqué la dépouille. Puis là, ils ont expliqué la famille aurait voulu qu'un des membres monte là, comme témoin puis voir ce qui se passe. Puis on leur a interdit. On dit, regarde, nous, on n'est pas là pour du temps. On peut juste transporter le corps. On peut pas transporter.
À la Havane, parce que
oui,
c'est
à
là.
À la Havane, qui est à quelques, comme plusieurs kilomètres de Varadero. Pas énormément loin, là, mais. Puis là, ben, ils l'ont jamais revu.
Jamais revu. Parce que à ce moment-là, quand quelqu'un décède en voyage, c'est excessivement malheureux, mais en plus de la perte émotionnelle, de la perte là, évidemment occasionnée, le deuil et tout, il y a une perte financière aussi qui vient avec tout ça. Parce que
normalement, c'était assuré, le rapatriement du corps, mais eux, ils ne devaient pas être assurés. Ils disent devoir avoir dû payer 10 000 $
Oui, 10 000 $ donc, qui dépense pour être capable, ben, ils se cotisent tous ensemble pour ramener la dépouille du père pour qu'il puisse être enseveli, enterré ici à Montréal. Le problème, c'est que là, vous devez arriver vendredi à l'aéroport Montréal-Trudeau. Et là, je vous laisse, on l'a reçu ici aussi, là, Mme Myriam Jarjour, donc la fille du défunt, à l'émission de Yasmine Abdel-Fadel un peu plus tôt aujourd'hui. Écoutez ce qu'elle nous décrit lorsqu'ils ont eu enfin là, l'appel des nouvelles de leur père.
Fait que après 2 heures, mon frère a eu un appel de demander si mon père a des cheveux. Mon père n'a pas de cheveux. Si mon père a des tatous, mon père n'a pas de tatous. En plus, il est plus jeune de mon père de 20 ans.
Ça, c'est la description du corps qui est arrivé. Qui est donc pas le corps du tout de leur père, le corps d'un ressortissant russe, comme elle l'a
qu'on
dit.
A finalement retrouvé, là, qui était décédé aussi ailleurs à Cuba.
Mais qui s'est rendu jusqu'à Montréal-Trudeau au lieu de se rendre en Russie, c'est ce qu'on comprend. Un homme 20 ans plus jeune, tatouage, cheveux... C'est-tu possible d'être plus loin de la description physique de M. Jarjour qui est malheureusement décédé? Je sais pas, honnêtement.
Mmh. Sauf que les papiers, les photocopies des papiers d'identité de M. Jarjour étaient dans le cercueil.
Oui, fait qu'il y a quelqu'un qui a regardé ça, là, qui a vu les photos, il a fait « c'est bon, on étend
mais
ça, go ».
Ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que ces papiers-là sont plus où il y a le corps.
Non. Qui se retrouve.
Et là, la famille pose des questions et plus personne sait, plus personne a de réponse sur où est le corps de M. Jarjour à ce moment-ci.
Ouais, puis là, c'est censé être la responsabilité, on se comprend, d'Affaires mondiales Canada qui doivent aider, accompagner les familles dans des situations comme celle-là, puis qui n'ont pas l'air d'avoir la moindre idée là, d'où peut se trouver le corps.
Mais eux disent, dans une réponse à nos journalistes à Ottawa, ils disent être en lien avec la famille pour leur offrir des services consulaires. Mais la famille dit, nous, on n'a pas de réponse d'eux. Téléphone, courriel, rien.
Hmm.
Fait qu'eux disent offrir des services consulaires à la famille, mais la famille ne le sait pas.
C'est bien,
d'après,
ça.
D'après moi, les services qu'ils offrent à la famille en termes de suivi, en termes de leur parler régulièrement pour les garder informés de « OK, on se reparle à soir, j'ai des appels à faire, je vais faire des vérifications, je vais appeler je ne sais plus qui, la santé, l'entrepreneur, la pompe funèbre. » La famille dit être incapable de parler à qui que ce soit. Mais eux disent « Oui, oui, on connaît le dossier, puis la famille reçoit des services consulaires de notre ministère. »
Donc, un organisme gouvernemental répond plus vite aux journalistes qu'à la famille elle-même.
Ben, un organisme gouvernemental dit s'occuper d'une affaire, dit qu'une famille reçoit des services consulaires, mais les principaux intéressés ne le savent pas.
Honnêtement, je peux pas m'imaginer être dans la peau. Là. C'est, ben, si on est sarcastique, mais tu perds ton père.
Je viendrais fou d'appeler à faire Mondial Canada puis d'essayer d'avoir une réponse, de parler à quelqu'un. Déjà, de ne pas parler à quelqu'un, ça finit fatigant. Quand tu as quelque chose d'aussi grave, qu'on peut pas te... Il me semble qu'une famille comme ça, le cas est tellement unique, tellement spécial. Ça, moi, je leur parlerai tous les jours. Dis que on va se parler tous les matins. Mettons que vraiment, là, c'est l'enfer, Cuba répond pas, t'envoies tes services. Mais au moins, tu
montres à la famille que tu fais un suivi.
Que tu fais un suivi, tu racontes un peu tes démarches du jour, tes difficultés, tu leur dis ce que tu vas faire le lendemain, ce que ton enquête t'amène. Qu'au moins la famille peut avoir une paix d'esprit de dire bon ben regarde, ça va pas bien, mais il y a des gens compétents qui font le maximum de ce qui est possible pour essayer de le trouver.
Apparemment, on a un dossier dans lequel tu sais, ça t'enlève la confiance complètement. Vraiment un dossier de fou. En tout cas, toutes nos pensées avec la famille Jargeau, là, en espérant qu'on soit capable de retrouver là, la dépouille du père, puis surtout d'être capable de la ramener par la suite. Parce que là, en plus de tout ça, Mario, ils ont payé
10 000 $, ouais, c'est ça.
Puis il y avait
tout là, personne ne leur parle de remboursement. Donc, c'est comme s'ils ont payé 10 000 pour faire venir par erreur un Russe. Puis là, personne ne leur parle des remboursés. Là, c'est complètement fou, cette affaire-là.
Ouais, le Russe, lui, il a pu reprendre le chemin de...
Oui, c'est la partie normale. Là. Ils l'ont retourné vers sa famille en Russie. Ça, c'est correct, c'est de bonne loi. Mais la famille de Montréal, eux, ils n'ont pas leur père, ils n'ont pas de nouvelles, ils n'ont plus leur argent, ils n'ont plus rien. Pas de réponse.
Je ne veux pas dire quoi faire. Au service à Cuba, mais si la dépouille du Russe ici avait les papiers de M. Jargeau, peut-être s'il trouve un corps avec des papiers russes, puis le monsieur n'a pas l'air d'origine russe.
Peut-être que oui, peut-être qu'il y a eu une inversion comme ça. C'était ça, c'est quand même l'inversion la plus simple. Peut-être c'est plus compliqué aussi.
Oui, ça se pourrait aussi.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Histoire sordide qui fait les manchettes, Mario, une histoire d'agression sexuelle sur une mineure qui se passe sur des années. Mais une histoire qui a aussi un lien avec un autre cas d'actualité récent. Puis c'est ce qui en fait une histoire encore plus incroyable. Merci. C'est l'histoire de Pierre Lafontaine, un homme qui a plaidé coupable aujourd'hui à accusation d'exploitation sexuelle, contact sexuel sur mineur, incitation à contact sexuel, pornographie juvénile, leurre informatique, etc. Un homme qui est un ancien chauffeur d'autobus de 68 ans et qui avait commencé à rencontrer sa jeune victime alors qu'il conduisait son autobus. La jeune femme, à ce moment-là, jeune fille de secondaire 1 à secondaire 3, devient un peu, si on veut, là, la confidente du chauffeur, mais s'assoit derrière lui parle, une fille jeune, somme toute solitaire. Secondaire 3, change d'école, se ramasse seule, isolée, trouble alimentaire, s'automutile. Et à ce moment-là, ben, l'homme, le prédateur, prend avantage de tout ça pour avoir de multiples relations sexuelles là, au-delà de 5 ans.
Puis des relations terribles, dégradantes.
Dégueulasse, là. Puis je me passe la description qui contient déjection et tout ce que vous voulez. C'est absolument horrible là, ce que l'homme a fait vivre à la jeune femme. Et plus elle vieillissait, bien moins il s'intéressait à elle. Tiens, au fil des années, si bien que la jeune femme, lorsqu'elle est devenue maman à son tour, bien, a décidé de dénoncer son agresseur. Mais là, c'est que Pierre Lafontaine, lui, est arrêté au terme d'une longue enquête en février 2020.
Sauf que Pierre Lafontaine a été dans l'actualité récemment.
Oui, il avait été à ce moment-là dans l'actualité parce que 4 mois plus tôt, c'est son frère cadet, Luc Lafontaine, qui se retrouve dans l'actualité parce qu'il s'est fait assassiner. Puis pas juste assassiné et démembré par un jeune étudiant de 19 ans. Cette histoire de Nicolas Côté, là, qui est le criminel dans cette histoire-là, qui a été là, reconnu coupable et qui a même avoué la culpabilité dans son crime d'avoir tué Luc Lafontaine. Là. Je résume un peu l'histoire, elle avait fait beaucoup les manchettes. Là. Le jeune homme avait approché cet homme-là en pensant que son ami, lui, s'était déjà fait agresser sexuellement par
Luc Lafontaine.
Mais ça semblait
être le cas. Là. Ça oui. semblait...
Ben, il rencontrait M. Lafontaine sous prétexte d'aller avoir des relations sexuelles. Ouais. Ni plus ni moins. en étant un jeune homme de 19 ans, se présente là-bas, ça tourne mal, et là, ben, finit par donner des coups de marteau, puis poignarde et tue finalement là, Monsieur Lafontaine, le démembre, et essaie d'aller se débarrasser du corps, hein, auquel moment les policiers l'interceptent.
On l'intercepte, là, pour les gens qui s'en souviennent, à Saint-Basile-le-Grand, il est à la descente de bateau, là, il s'en va porter les morceaux dans la rivière Richelieu, les morceaux, les restes humains dans la rivière Richelieu, et les policiers qui l'avaient sous écoute en conversation téléphonique savent qu'ils s'en vont là, les arrêtent sur place. Lui puis une jeune fille qui était sa blonde de l'époque.
Oui, qui est devenue le complice là, à ce moment-là. Il a été reconnu coupable d'outrage en cadavre, complicité après le fait.
Et donc, à ce moment-là, quand Luc Lafontaine est décédé, c'est son frère qui commente le décès dans les médias.
Ben voilà, et Pierre Lafontaine, lui, s'en va défendre, ni plus ni moins, son frère, en disant que c'est pas
un pédophile, c'est impossible, cette histoire-là.
En étant lui-même, on le sait maintenant, puisqu'il a plaidé coupable, un pédophile. On a même la jeune victime là, de Pierre Lafontaine qui a commenté elle-même, là, semble-t-il, aux journalistes en expliquant à nos collègues du Journal de Montréal qu'elle se doutait même que c'était une autre histoire d'agression sexuelle. Là, dès qu'elle avait vu le meurtre de Luc Lafontaine, là, t'as un duo de frères pédophiles. Ah, c'est toute une histoire, Mario, là, sincèrement, toute une histoire comme ça qui revient dans l'actualité. Et encore une fois, sordide, là, vraiment sordide histoire.
Tout savoir en 24 minutes.
Ça continue de brasser pas mal à Montréal, Mario, là, sur le niveau des vols de voitures, mais aussi tout simplement des voleurs de voitures eux-mêmes qui conduisent en cow-boy. On va le dire demain.
Ouais, et qui deviennent violents. Dans certains cas, c'est plus qu'en cow-boy qui conduisent en agresseur.
Ouais, parce que la police, depuis la fin de semaine, recherchait là, un conducteur là, qui a échappé là, au volant d'une BMW aux policiers là, dans une vidéo qui a été partagée abondamment sur les réseaux sociaux. On voit même là, un policier arme dégainée qui pointe vers le véhicule, demande au conducteur d'obtempérer en disant « Arrête-toi, sinon je tire. » Puis le conducteur qui fait une manœuvre, là, marche arrière, embarque sur un trottoir, puis roule là, presque sur le policier qui réussit à éviter la voiture de justesse, puis prend la poudre d'escampette par la suite. On continue à chercher cette personne-là, mais c'est des incidents comme ça dans lesquels on se comprend. Un policier a eu sa vie mise en danger par cette manœuvre-là, mais il y en a une deuxième. Là. On dit que c'est un autre incident qui est survenu cet après-midi à Montréal, dans le coin de Pointe-Claire. Et là, c'est une autopatrouille là, qui s'est faite frapper dans une manœuvre qui est à peu près similaire. Là. On a tenté de reculer, d'échapper aux forces de l'ordre. Un véhicule volé, encore une fois, fonce dans le véhicule de police. Et ça aurait même là, blessé légèrement le policier là, qui aurait été heurté par tout ça. Donc, deux cas quand même là, qui se retrouvent dans une temporalité assez proche.
Il y en avait quand même eu un vendredi. Il y a un type là, qui s'est retrouvé atteint là, par les balles des projectiles des policiers alors qu'il fonçait sur les policiers. Son frère témoignait dans les médias en fin de semaine. Son frère disant que il méritait pas ça, il méritait pas un tel sort, que lui est sûr. Bon, son frère a dû être condamné pour vol de voiture en Alberta. Mais il dit, c'est pas le genre de gars qui aurait foncé ses policiers. Il dit, les policiers n'auraient jamais dû tirer sur lui parce que lui, là, c'est sûr qu'au dernier, même s'il avait l'air de foncer sur les policiers, au dernier moment, là, il aurait contourné.
Mais comment t'es supposé savoir ça?
C'est ça.
T'es un policier?
Parce que là, le policier, quelqu'un qui fonce dessus, là. Fait que là, tu sais, prendre le temps de faire les recherches, savoir c'est qui, trouver son frère, faire les téléphones pour dire, ouais, d'après moi, là. Écoute, ils foncent sur toi, là. Il y a juste une façon d'agir, là. C'est t'arrêtes la menace, là. C'est ça que les policiers se font enseigner. Quelqu'un menace ta vie. C'est après ça de dire, ben là, il méritait pas ça. Et je suis convaincu qu'il aurait tourné juste avant, là.
Ouais. C'est des incidents, ça peut sembler banal, là, au premier coup d'œil, mais quand on les additionne, Mario, il y a celui-là aujourd'hui, un autre en fin de semaine. Un vendredi, des jeunes ados qui se sont tués dans une course-poursuite en fonçant dans un arbre. On a le phénomène du white lining à Montréal, là, des véhicules qui se filment en train de rouler en fou. Je sais pas, moi, on dirait que je vois, là, tu sais, combiner ça avec les vols de voitures, il y en a, là, du grabuge avec les autos à Montréal.
Fait, le vol de voiture est quand même au centre de ça. C'est qu'on a laissé un crime prendre de l'ampleur, puis là, on est un peu pris avec. C'est tout ce qui vient avec. Là.
Dire qu'on, découle, ouais.
On pensait que c'était un crime sans violence. Les assurances, tu as volé ton auto, mais les assurances remboursent, pas si grave. Puis là, on se réveille, puis on a laissé un crime prendre de l'ampleur. Puis une nouvelle génération de jeunes criminels, puis avec cet argent-là, ils se sont achetés des armes. Puis, là, on est en mode rattrapage.
Économie.
As-tu des réserves de vin assez importantes, Mario, pour survivre la semaine?
Oui.
OK. Fait que t'es pas une de ces personnes pour qui je m'inquiète en ce moment.
On devrait pas. Mais les gens qui s'inquiètent, ils vont pouvoir faire là. Il reste deux jours, là.
Il reste deux jours pour aller faire vos provisions de vin ou autres spiritueux à la SAQ parce qu'il va y avoir une grève des employés de la Société des alcools
Mais
du Québec.
Est-ce qu'ils ferment les portes ou bien les cadres vont faire de la caisse? Parce que dans le passé, quand il y a eu des grèves, là, les cadres, souvent, ça opérait comme des heures restreintes, là. Puis ils remplissent pas les tablettes nécessairement. Mais c'est ouvert, puis les cadres sont aux caisses, ça peut payer.
C'est une bonne question. Je pense que c'est difficile de le garantir à ce point-ci.
Ouais, peut-être que juste deux jours comme ça, ils vont fermer tout simplement. Ils vont prendre la solution facile. Ils vont dire, regarde, la personne qui est en manque de produits. Pis...
Parce que c'est le syndicat des employés des magasins et des bureaux aussi de la Société des alcools du Québec. Là. Donc, on a quand même là, beaucoup de gens qui risquent d'être en grève. À ce moment-là, là, les négociations qui stagnent, c'est pour ça qu'on s'est doté donc d'un mandat de grève pour mercredi et jeudi cette semaine. C'est à peu près 70% des employés de la SAQ qui sont à temps partiel ou sur appel. Là. Puis c'est ce qui est décrié, entre autres, du côté du syndicat qui, eux, demandent là, d'avoir mais plus de stabilité dans les heures là, d'employés qui ne savent pas d'une semaine à l'autre combien d'argent ils vont avoir dans leur compte là. Dans ces cas-ci.
La direction de la SAQ est un peu pognée entre deux eaux parce que d'habitude, les ventes augmentent tout le temps. Fait que, quand tes revenus augmentent, ben, si tu augmentes tes dépenses, c'est pas si
mieux payer tes employés.
Mais là, il y a depuis une couple de trimestres un réel ralentissement des ventes. Même d'un trimestre à l'autre, ça avait baissé un petit peu. Et le ministre des Finances, lui, il est dans le trou. De 11 milliards. Fait que la dernière chose qu'il veut, c'est que des vaches à lait comme la SAQ commencent à y verser moins de dividendes. Donc, tes revenus sont en légère baisse. Le ministre des Finances attend des gros dividendes. Toi, avec tes revenus en baisse, mais là, t'as une pression pour monter les dépenses. Alors qu'il faudrait que tu. T'sais, pour garder le même dividende avec des revenus plus bas, il faudrait que tu baisses tes dépenses aussi. Fait que j'ai l'impression que la direction de la SAQ présentement est sous haute tension.
Oui. C'est vraiment être coincé entre l'arbre et l'écorce, je pense que ton analogie dans ce que c'est très bonne.
Le monde.
C'était aujourd'hui que commençait officiellement le procès pénal de Donald Trump, là, qui est accusé, je le rappelle, d'un paiement pour acheter le silence d'une ancienne star du X, Stormy Daniels, avec lequel il aurait eu des relations sexuelles, qui aurait tenté de masquer en 2016, tout de suite avant l'élection qu'il l'a porté à la Maison-Blanche. Et là, ça s'ouvrait aujourd'hui avec, mais bien évidemment, toute la sécurité qui se trouve autour de ce procès-là, les 12 jurés qui étaient assis pour écouter un tout premier témoignage qui a été présenté. Évidemment, les plaidoiries des avocats ont débuté cette séance aujourd'hui. Puis on y va fort là, du côté de la poursuite, Mario, parce qu'on a décidé de ratisser plus large puis de parler, ni plus ni moins, que de complot pour truquer l'élection de 2016. Là. C'est ça dont on accuse là, en tout Donald Trump en disant qu'en mentant dans ses documents comptables encore et encore puis en dissimulant toutes sortes d'informations, il aurait tenté d'acheter le silence là, de plein de gens sur toutes sortes de frasques puis d'autres incidents comme celui de Stormy Daniels qui serait arrivé avant l'élection. Là. En bref, d'acheter le silence. Du côté de sa défense, Mario, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Il n'y a rien d'illégal à vouloir influencer une élection. Ça s'appelle la démocratie.
Mais c'est parce que ce qui lui est reproché, c'est même pas d'avoir payé Stormy Daniels, c'est d'avoir détourner des fonds électoraux pour le faire, oui. Puis d'avoir passé ça sur un autre nom, d'avoir caché, d'avoir fraudé les documents. Parce qu'en soi, tu peux, là, ça existe, une entente de confidentialité ou une entente pour taire une affaire. C'est pas parfait, puis quand ça sort, ça a toujours l'air fou un peu, parce que ça dit, OK, t'as de quoi cacher, mais ça peut être légal, là. Quand c'est fait correctement.
Mais quand tu décides de le camoufler sous d'autres noms puis de détourner de l'argent pour le faire, ben à ce moment-là, ben ce n'est pas légal. Puis c'est pour ça qu'il serait passible d'une peine de prison autour de cette affaire-là. Et il y avait un tout premier témoin également qui s'est présenté aujourd'hui, qui est un ancien patron de presse, M. David Pecker, qui lui dirigeait à l'époque le tabloïd américain The National Enquirer.
Il avait un drôle de rôle là-dedans.
Parce très
que lui,
drôle.
Parce que lui, techniquement, là, son média, c'est... des scoops de ce genre-là, là, tu sais,
oui.
Des scoops, des
un peu scabreux,
des potins, puis tout ça. Et lui, il jouait sur les deux tableaux. En d'autres termes, il sortait des potins parce que pour vendre des copies pour faire de l'argent. Mais à un moment donné, avec des alliés comme Trump, il utilisait son poste du National Enquirer pour obtenir des potins. Puis après ça, il s'arrangeait pour les tuer, là. Tu sais, noyer le poisson.
Oui.
Mais là...
C'est ce qu'on appelle en anglais du catch and kill.
Catch and kill. Tu trouves l'histoire, puis t'as fait disparaître.
Oui, il allait acheter l'exclusivité, ni plus ni moins. C'est comme s'il faisait une belle recherche journalistique. C'est comme si, je sais pas, on avait un scoop sur un ministre ou sur quelqu'un d'important ici à Cube Radio ou au Journal de Montréal. On s'en va, on enquête, on fait les entrevues, on prend tout, on dit « Vous allez voir, on s'en occupe. » Puis après ça, plus rien. Silence radio total.
Mais et dans ce cas-ci, ben là, lui avertit Trump, regarde, ça va te coûter tel prix, il va falloir que tu fasses, tu sais, moi, je peux tuer l'histoire, mais il va falloir que tu payes madame, là, parce que sinon, on va aller la raconter à quelqu'un d'autre, là, tu sais.
Voilà. Et donc, ben, c'est de cette manière-là qu'aurait procédé le National Enquirer, puis c'était pour ça qu'aujourd'hui, M. David Pecker devenait un très gros premier témoin, quand même, dans cette histoire-là, qui était entendu, puis c'est pas fini, hein, parce qu'on va avoir Stormy Daniels elle-même qui va venir témoigner, ce qui va être, on se comprend, un témoignage excessivement attendu, parce que...
Puis on sait pas comment elle va témoigner, parce que les dernières fois qu'elle a parlé, là, elle avait donné toutes sortes de détails, incluant sur le physique de monsieur. On avait dit qu'elle prenait plaisir à dire toutes sortes d'affaires. Elle l'humiliait.
Elle avait entre autres comparé l'engin de M. Trump au personnage de Super Mario Toad, l'espèce de petit bonhomme champignon. Ouais, elle avait comparé à ça, entre autres. Donc, si elle est aussi colorée dans un témoignage de cour, ça promet, Mario.
Ouais.